Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2013 et c'est l'épisode numéro 108. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume l'actualité technologie, internet et gadgets et où on la rend a priori suffisamment compréhensible pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe dans ce monde merveilleux. Je m'appelle Patrick Béja, je suis votre hôte et je suis encore une fois avec des animateurs fantastiques du podcast Niptech. On a Benoît, que vous connaissez très certainement déjà, chers auditeurs. Comment vas-tu, Benoît ?
Très très bien, extrêmement heureux d'être avec toi.
Et on a aussi Mathieu, alias prof du web, qui va nous enchanter les oreilles avec son délicieux accent canadien. Comment vas-tu, Mathieu ?
Ça va très bien, bonjour à tous. Je vais essayer d'être compréhensible et pas trop parler le joual comme chez nous on est habitué de parler.
Bon, pour les termes un peu étranges, c'est vrai qu'il faudra peut-être faire un effort, encore qu'on nous reproche souvent d'utiliser trop de termes anglais. Peut-être que tu pourras nous amuser avec les termes québécois.
On va essayer.
Mais en tout cas, ton accent chantant, je suis sûr, va ravir les oreilles de nos auditeurs. C'est bien, à chaque fois qu'on a des gens de Niptech, on a différents accents de la francophonie. Donc c'est bien, on couvre de plus en plus de la francophonie, je suis très content.
Ah.
pour ceux qui ne le savent pas, Niptech est une émission du groupe NoWatch qui est aussi orientée tech, mais un petit peu plus sur les startups et l'innovation. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage à le faire car elle est de grande qualité.
Je l'aurais pas mieux dit, Patrick. C'est très bien.
Ouais, je me suis entraîné. J'ai répété pendant plusieurs jours avant l'émission, donc j'espère que c'est bien.
Très bien. mais t'es tout bon pour venir à Niptech, finalement, Patrick.
Mais moi, j'attends que ça. J'attends qu'une invitation.
Bon, c'est noté.
Donc, on va vous parler de principalement deux choses intéressantes aujourd'hui. On a beaucoup de détails et de discussions sur l'annonce de cette semaine, ou plutôt de la semaine passée, le Facebook Home sur Android, qui n'était pas finalement un vrai téléphone Android, mais qui n'est pas non plus une simple application. Donc, on va analyser l'annonce et vous en donner les détails. Et on a aussi un sujet que je voulais pas forcément traiter, mais que beaucoup ont réclamé, un sujet sur Google Reader, dont la fin a été annoncée qui désespère un grand nombre d'auditeurs. Donc on va en parler, et puis on va parler un petit peu de ce qui se passe autour et des questions qui se posent avec cette disparition. Et on aura bien sûr, dans la deuxième partie de l'émission, toute une série de petites news et rumeurs, comme on le fait toujours. Je vous propose, camarades, de commencer donc immédiatement avec le Facebook Home et de donner les détails sur cette annonce qui était qui change pas le monde, mais qui est quand même très intéressante. Est-ce que vous avez suivi la conférence? Est-ce que vous l'avez regardée? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit tous les deux?
Alors moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai tout écouté les émissions qui parlaient de ce sujet-là. Et puis, j'ai pas suivi la conférence, soit dit en passant, mais on a vu assez d'images, puis on a vu assez de commentaires et d'actualités pour se faire une bonne idée là-dessus.
Et toi, Benoît?
J'ai bien regardé aussi et j'ai même fait un petit sondage dont je vais donner les premiers résultats un peu plus tard quand on aura parlé sur alors un tout petit échantillon mais qui montre comment est-ce que les gens en tout cas de mon réseau, les gens plutôt dans la tech, se préparent à Facebook Home. Alors, je te dirai après.
Très bien, ah, un petit teasing, j'aime bien. Alors, Facebook Home, qu'est-ce que c'est ? Vous le savez certainement, chers auditeurs, il y a des rumeurs qui courent depuis un an ou deux sur le fait que Facebook sont en train de préparer un téléphone. Et enfin, ils ont annoncé ce dont il s'agissait la semaine dernière. Et il se trouve que ce n'est pas exactement un téléphone. Ils avaient démenti ces rumeurs à plusieurs reprises en disant qu'ils n'avaient pas besoin de faire un téléphone et qu'ils n'avaient pas envie de faire un téléphone puisque l'ambition de Facebook était d'être présent sur tous les téléphones. Et on a constaté, c'est vrai, que l'orientation mobile de Facebook était une réalité depuis quelque temps et qu'ils avaient également une collection d'applications assez complète qui permettait aux aficionados de Facebook de se retrouver un petit peu comme à la maison, quel que soit leur mobile. Il n'empêche que cette annonce, donc l'annonce de Facebook Home, est quelque chose d'un petit peu différent. Ils ont fait une chose inattendue et assez intelligente, j'ai trouvé. C'est-à-dire que ils ont développé plus qu'une application, ils ont développé une interface qui vient remplacer l'interface de base d'Android. C'est-à-dire que à terme, il y aura un téléchargement qui sera disponible pour une grosse partie des téléphones Android qui permettra de refaire l'interface de base, en tout cas, d'Android, et pour la mettre aux couleurs de Facebook. Donc, c'est pas tout à fait un téléphone complet, c'est pas tout à fait un système d'exploitation complet non plus, mais c'est déjà beaucoup plus qu'une simple application ou qu'une collection d'applications. Alors, comment ça fonctionne ? Il y a plusieurs éléments principaux, on va pas tous les détailler, mais on va quand même en donner quelques-uns. Une fois que cette application, mais vous me comprenez, c'est un petit peu plus que ça, une fois que cet ensemble d'interface est installé sur un téléphone, il y a ces quelques fonctionnalités que j'ai voulu relever. La première, c'est ce qu'ils appellent le cover feed. C'est-à-dire que quand vous allumez l'écran de votre Android Facebookisé, vous avez directement accès, sans même devoir le débloquer, le déloquer, vous avez directement accès à votre flux qui est mis en forme pour le téléphone. C'est-à-dire que chaque mise à jour est illustrée soit par une image du lien qui est intégré ou de la photo, soit par une image de la personne qui a fait cette mise à jour. Et vous pouvez interagir directement, encore une fois, sans débloquer le téléphone, avec cette mise à jour, avec cet update. Si vous double-tapez, vous allez faire un like, vous pouvez faire remonter les commentaires, vous pouvez passer d'une mise à jour à l'autre, etc., etc. Encore une fois, sur l'écran de veille de votre Android. Donc, ça met vraiment Facebook et vos contacts Facebook au centre de votre expérience mobile. Donc, ça, c'est le cover feed d'une part. Il y a aussi les chat heads, donc les têtes de chat, les têtes de discussion, qui vous permettent d'avoir, quelle que soit l'application dans laquelle vous êtes, que ce soit des applications Facebook ou d'autres, accès au chat, au message Facebook. Et là, on a quelque chose qui est encore une fois assez intelligent parce que ça vous donne, ça vous met en contact avec vos contacts Facebook en permanence quand vous utilisez votre appareil. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une sorte de petit cercle avec la tête du dernier contact avec lequel vous avez interagi. Et si vous tapotez dessus, et ben vous avez accès à toutes vos conversations et aux conversations avec d'autres personnes, hein, il y a une sorte d'historique, et vous pouvez, là encore, sans quitter l'application dans laquelle vous êtes, répondre et continuer à chatter avec la personne en question. Il y a une interface qui est très orientée sur les gestes, il y a assez peu de l'interface est assez épurée, c'est vraiment aussi mobile que possible. Il y aura très certainement bientôt des publicités. Il y aura, ils l'ont annoncé, une version tablette qui va arriver aussi. Et ils ont aussi, ils ont également dit qu'ils permettaient, que ce système leur permettait, puisqu'ils ne, ils n'ont pas un gros OS, un gros système de d'exploitation lourd, ça leur permettait de faire des mises à jour mensuelles pour ajouter des fonctionnalités et améliorer le logiciel. Ils ont déjà annoncé qu'il y aurait donc plusieurs téléphones qui pourraient installer cette cette application, en particulier les téléphones Samsung Galaxy S3, S4 et une collection de téléphones HTC. Et HTC justement est l'un des partenaires de cette annonce, puisque ils ont sorti un téléphone qui s'appelle le HTC First, qui sera disponible chez AT&T aux États-Unis, chez Orange en France. C'est un téléphone assez bon marché, à 100€ environ avec abonnement bien sûr, qui a cette interface préinstallé, qui est déjà installé à la base. Quand vous l'achetez, vous n'avez rien à faire pour l'avoir. Et il y en aura d'autres qui viendront à l'avenir. Alors, voilà la description de cette annonce. Voilà de quoi il s'agit, ce Facebook Home. Tout de suite, vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Pas forcément pour vous directement, mais la méthode et la manière dont ils ont imaginez cette Facebookisation d'Android. On va commencer avec Benoît, peut-être.
Oui, tu as raison de demander, pas pour nous directement, parce que pour moi, c'est la description de l'enfer, un petit peu, de vivre dans cet écosystème Facebook. Mais au-delà de ça, c'est un magnifique logiciel qu'ils ont mis au point. Il n'y a aucun doute là-dessus, extrêmement épuré, vraiment extrêmement bien maîtrisé au niveau technique. Donc à ce niveau-là, aucun doute, c'est vraiment très bien fait. Alors, je crois qu'on s'accorde tous, en tout cas tous les analystes que j'ai entendus sont d'accord pour dire que c'est un premier pas vers un vrai système d'exploitation. Je ne sais pas si tu es d'accord aussi là-dessus, Patrick, mais en tout cas, ça semble être le cas, non? C'est une sorte de coup d'attente.
Ça serait une possibilité, mais disons que je ne suis pas convaincu que ça viendra, mais ça ne m'étonnerait pas non plus que ça arrive à un moment.
Ouais. Après, mon grand souci, c'est vraiment l'adoption. Parce que c'est bien d'avoir fait quelque chose qui présente bien et qui a déjà un téléphone. Je vois quand même un gros problème en termes de qui va l'installer. Pourquoi est-ce qu'on installerait cette pièce si on n'est pas vraiment à fond dans Facebook? Les évangélistes, donc les gens qui ont tendance à aller vers les autres et puis à faire installer des choses, sont plutôt de ceux que je connais sur l'iPhone. Et les geeks qui sont sur Android ont tendance à détester Facebook. Donc, ils ont déjà deux parties de la population qui sont des évangélistes nés sur lesquels ils pourront pas s'appuyer. Donc, pendant les fêtes de famille, les repas de Noël, etc., ils vont pas dire aux gens d'installer. Donc, c'est là où je vois le problème. À mon avis, ils ont quelque chose qui va faire comme Google Buzz, c'est-à-dire qu'à l'interne, les gens l'apprécient beaucoup. Et ils ont l'impression que ça va fonctionner à l'extérieur, mais à mon avis, et là je prends le pari déjà, ça va faire un flop. Pour ces raisons-là, parce que les gens vont pas avoir envie d'installer quelque chose qui semble trop compliqué justement, qui offre trop. On est dans tout ce qui est mobile, on est plutôt dans la simplicité justement.
Donc toi t'es pas convaincu. À noter évidemment que ça n'est pas ce type de modification d'interface n'est pas possible sur iOS et sur iPhone, puisque le système d'Apple est beaucoup plus restrictif dans ce qu'il autorise au programme, aux développeurs. Donc ça ne peut pas arriver sur iPhone. On l'a bien compris. Toi Mathieu, t'es un petit peu plus positif, t'y crois un peu plus ou t'es comme Benoît?
Ah non, moi je suis un peu comme Benoît du côté geek. Moi-même, je serais pas porté à installer cette chose. Mais par contre,
c'est assez clair.
En fait, le terme français, j'ai fait une recherche pour toi, Patrick. Le terme c'est lanceur. C'est un lanceur. Sur Internet, on parle d'un lanceur. Alors, j'ai fait une recherche sur le Play Store, qui est la boutique de Android, de Google pour les applications, et c'est une mode assez qui m'a totalement surprise. Les launchers, les lanceurs sont des applications très très téléchargées. Dans les 30 derniers jours, j'ai fait une petite recherche sur les trois plus gros, et c'est entre 50 et 100 millions de téléchargements par launcher, avec Go Launcher EX entre 50 et 100 millions, Zedge minimalistique, et même que sur le Play Store, il y a une section spéciale pour les lanceurs. Ce qui me fait dire que ouais, c'est ça, c'est ce que je pense. Il y a un marché. Et en plus de ça, dans les lanceurs qu'il y a sur le Play Store, ils sont pour la plupart payants. Il y a un marché, les gens veulent avoir quelque chose de distinctif, d'un peu plus épuré, plus clean, plus moins de boutons, moins ça, ça il y a un marché.
Ouais, c'est l'un des avantages de d'avoir un téléphone Android, c'est qu'on peut entièrement customiser et modifier son interface,
ouais. Ouais, tout à fait. Deuxième aspect de la chose encore, c'est que c'est une maudite bonne idée pour Facebook comme banc d'essai de préparer un launcher pour préparer tout ce qui est interface. On sait que c'est souvent ça qui accroche. Le back-end en arrière, là, généralement, on a des programmeurs pour s'en occuper. Mais en avant, les interfaces, c'est ça qui accroche, c'est ça qui fait que tu es distinctif d'un OS à un autre. Mmh. Et je trouve l'idée du launcher de Facebook une très bonne idée pour Facebook. Pas pour moi, pour Facebook, pour faire un banc d'essai là-dessus pour plus tard, à terme, peut-être avoir son propre téléphone ou ses propres tablettes. Mais l'aventure du launcher est une maudite bonne idée stratégique qu'aurait pu faire Amazon au lieu de se faire des tablettes puis de peut-être éventuellement bientôt un téléphone, aurait pu peut-être avoir cette stratégie-là.
Limiter au launcher.
Ouais, effectivement. Moi, je trouve ça une très, très, très bonne idée. Puis je vais rappeler, là, c'est gratuit, c'est pas obligatoire, tu peux le supprimer quand tu veux. Et puis, il n'y a pas personne qui le demande de l'acheter avec ton téléphone. C'est toi-même qui l'installe. Mm. C'est pas quelque chose d'obligatoire.
Vas-y Benoît.
J'ai une question à te poser parce que peut-être que vous avez mieux compris au niveau de ces chat heads, il semblerait bon évidemment ça s'intègre avec Facebook, mais de ce que j'ai compris ça s'intègre aussi avec d'autres choses, hein, les SMS.
Alors avec les SMS oui, pas les autres services de messagerie, mais avec les SMS. Et la distinction entre SMS et Facebook Messenger est un petit peu fondue, un petit peu comme les iMessage avec sur iOS. On fait pas vraiment une grosse distinction entre un petit message Facebook et un SMS, c'est complètement intégré de manière à ce que ça fonctionne aussi avec les SMS. On peut avoir une conversation SMS avec ces chat heads qui est accessible partout dans le système de manière complètement invisible. À noter quand même qu'il semblerait que les mises à jour, les mises à jour qui apparaissent sur l'écran de veille du téléphone, j'en discutais avec Cédric Bonnet il y a deux jours, il me disait que sur les téléphones HTC, ils ne sont pas ces mises à jour qui s'affichent n'incluent pas les mises à jour des autres applications, ce qui peut être un handicap. Si on l'installe soi-même, c'est le cas, mais sinon, si on achète le téléphone HTC avec ça déjà intégré, Facebook Home déjà intégré, ça ne s'affichera pas. Si on a une mise à jour d'une autre application, ça s'affichera pas, ce qui risque d'être un petit peu un handicap. Mais tout de même, moi je rejoins un petit peu Mathieu. Alors, je suis d'accord avec vous deux. Moi déjà, n'étant pas un grand fan de Facebook, c'est pas quelque chose qui va me parler. Mais je pense qu'on est un petit peu dans la minorité. Il y a quand même 1 milliard de personnes qui utilisent Facebook au quotidien. Je pense qu'il y a parmi ce milliard de personnes au moins quelques dizaines de millions qui seront intéressés, pour qui, vous savez, on parle souvent des gens pour qui Facebook c'est le web. Ils lancent leur navigateur et ils vont direct sur Facebook. Et c'est la manière dont ils envisagent le web. Ils vont pas souvent ailleurs. Donc pour ce type de personnes qui passent déjà leur vie dans Facebook, je pense que ça peut être intéressant. Contrairement à ce que tu dis Benoît, peut-être qu'il y aura pas des gens qui vont leur enfin qu'il y aura pas énormément de gens qui vont leur installer et leur montrer comment ça marche, mais je pense quand même qu'il y aura des gens qui seront suffisamment intéressés pour aller le chercher eux-mêmes. Et puis l'autre chose, c'est comme tu le disais Mathieu, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement intelligent de la part de Facebook, non seulement parce que ça leur donne accès, ça transforme en fait un petit peu n'importe quel téléphone Android, ou en tout cas n'importe quel téléphone Android compatible, en téléphone Facebook sans qu'il n'ait à développer un truc hyper compliqué comme un OS, mais en plus c'est pour moi extrêmement intéressant parce que là encore, ça a des implications lourdes sur Google et sur Android, parce que c'est encore une société qui se sert d'Android et puis qui le corrompt presque pour son utilisation. Alors, on a beaucoup parlé du fait que ça pouvait aussi donner à Facebook tout un tas d'informations sur les gens qui utilisent ce logiciel, les gens qui ont un petit peu peur de la collecte d'informations et de données privées pourraient avoir peur de ça, parce que si on a ce système installé, ben Facebook saura. Un exemple qui a beaucoup été donné, c'était celui de si jamais on reste de 8h à 7h du matin, de 8h du soir à 7h du matin quelque part, Facebook saura qu'a priori c'est notre maison. Et puisqu'ils ont accès aux données GPS, ça va leur donner tout plein d'informations aussi. Peut-être que Google aura également, de par Android, de par cette intégration Android, peut-être que Google aura accès à certaines des données de Facebook et des utilisateurs Facebook. On ne sait pas à quel point c'est cloisonné.
Mais qui nous dit qu'ils ne l'ont pas déjà accès? Ils ont la plateforme Google.
Ah, ils l'ont déjà, c'est sûr.
Exactement. Non, bien sûr. Mais par contre, par exemple, s'il y a une telle intégration, il est envisageable que Google puisse récupérer les données sur les contacts Facebook, sur les amis Facebook, par exemple. Bon, ça, on spécule, on sait peut-être pas exactement. Mais c'est vrai que cette sorte de coup de Trafalgar que fait Facebook à Google avec ce détournement d'Android, moi, j'ai trouvé ça non seulement intelligent, mais inattendu, et enfin, moi je pense que Google devrait encore plus s'inquiéter de cette perte de contrôle qu'ils ont d'Android, et pour moi c'est pas une super bonne nouvelle pour Google. C'est pas un coup de traître non plus, mais enfin, on n'est pas loin, non?
Est-ce que tu penses que le coup d'après, c'est d'installer leur propre moteur de recherche sur leur lanceur?
Peut-être, exactement.
Google,
Oui, exactement, puisqu'on sait qu'ils ont leur moteur de recherche sociale qui a été annoncé il y a peut-être un mois chez Facebook. Ils pourraient tout à fait intégrer cet élément aussi très rapidement. Et en plus, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça me paraît clair.
Ah, tout à fait.
Non, voilà. Mathieu, on t'a coupé?
En fait, ce que je voulais juste dire, c'est que Facebook fait rien de nouveau. C'est juste que c'est un des gros qui le fait. Mais comme je vous ai dit tantôt, il y a des centaines de millions maintenant de lanceurs qui sont téléchargés puis installés sur des plateformes qui font peut-être les mêmes choses qu'on craint que Facebook va faire. Et puis, quand tu dis, Patrick, qu'il pourrait ramasser les données, tout ça, on sait que Apple peut très bien le faire. On sait que Windows 8 peut très bien le faire. C'est la confiance qu'on apporte à la plateforme, c'est tout.
C'est sûr, mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que des sociétés comme Apple ou Microsoft font leur argent en vendant des produits ou des logiciels. Des sociétés comme Facebook ou Google aussi, hein, donc il faut pas plus s'inquiéter pour Facebook que pour Google, mais ces types de sociétés fournissent les services gratuitement. Bon, oui, peut-être que Facebook est un petit peu plus personnalisé, on va dire, mais ce type de société, comme on le dit souvent, qui propose des produits gratuits, font leur argent sur vous, sur les gens qui l'utilisent. Moi, je suis très content d'utiliser les produits Google. On va en reparler un petit peu plus tard avec Google Reader, mais il faut le savoir, effectivement. Bon, je voudrais conclure ce petit sujet sur Facebook Home. Alors d'abord, je serais intéressé de savoir si les auditeurs seraient intéressés par l'utilisation de ce Facebook Home. Je pense qu'on est plus dans un contexte et un milieu technophile, donc peut-être qu'on glisse du côté des geeks et qu'il y aura moins de gens qui seront intéressés. Mais si vous êtes intéressé par l'utilisation d'un Facebook Home, venez nous le dire dans les commentaires de l'émission. Je serais curieux d'entendre ce que vous avez à dire.
Alors écoute Patrick, je vais donner les résultats de mon sondage.
Vas-y.
Donc, il y a très peu de personnes qui ont répondu. Il y a 26 personnes qui ont répondu, il y avait 4 choix. Le premier, c'est, alors, Facebook Home, vous en pensez quoi? Premier choix, je suis hyper excité, je suis impatient, 0. Bon, voilà.
Okay.
Deuxième choix...
Tu les as demandé à tes followers Twitter ou...
Ouais, c'était sur Twitter et Google+. Deuxième choix, c'était, ouais, pourquoi pas, je vais l'installer, 6. Troisième choix, c'était, franchement, je m'en fiche. Il y en avait 11, et là, c'était la majorité. Et puis le dernier, je vais laisser traduire à Mathieu, c'était F you Facebook. il y avait 9. Et c'est ce qui me fait penser que Facebook, contrairement à Google ou Apple, a pas une base de followers, de gens qui sont des vraiment prêts à se battre pour eux, mais au contraire, ils ont plutôt que ces gens qui les détestent. Et c'est ça, à mon avis, qui va poser problème.
Je vais analyser ces chiffres d'une manière un petit peu différente. On est à 6 sur 26, donc on est en gros à 20%, hein, c'est ça à peu près, des personnes qui te suivent, donc qui sont des gens très intéressés par les startups et l'innovation et la tech en général. Donc 20% des gens qui ont répondu ont dit qu'ils pourraient peut-être l'intéresser, qu'ils pourraient l'installer. 20%, si tu traduis ça sur le nombre d'utilisateurs de Facebook, qui est de 1 milliard, si je fais bien mes calculs, 20%, ça fait 200 millions. Et encore, on n'est pas sur une catégorie de personnes qui est les plus susceptibles d'être intéressées par ce type de produit. Donc, si on monte de manière un petit peu conservative, on va dire, à 250 ou 300 millions, ça me paraît quand même plutôt important.
L'usager moyen de Facebook ne sait pas installer une app.
Peu importe, les gens. Là, on compte les gens qui pourraient peut-être être intéressés s'ils entendent parler du produit. 20%, c'est pas quelque chose de négligeable, surtout quand on parle d'une base installée aussi énorme que celle de Facebook.
C'est vrai, ça va être intéressant.
Ouais. Mais juste pour terminer le débat, j'ai réussi à mettre la main sur les premières screenshots. Les imprimés écrans de l'interface. Et puis, sur le site Modaco, qui a déjà les premières versions.
Il y a un leak d'une version de Home, effectivement.
Et moi, ce qui m'a surpris, deux choses. Il dit qu'il y a beaucoup de bugs. On est à quelques jours du lancement et il y a encore beaucoup de bugs.
Le lancement, ça sera le 12. Hein. Le 12, il sera disponible sur le Play Store. Donc, on est à quelques jours.
Alors, beaucoup de bugs, quand tu viens de tester l'application en quelques secondes puis écrire un article chez Modaco, ça me laisse un peu craintif. Et deuxième chose, et qui me tient particulièrement à cœur comme Mobinote, c'est la batterie. On sait que... La batterie,
ça va.
Ouais, OK. On sait que c'est vraiment très important quand tu es en mobilité. Et puis, on sait aussi que... Historiquement, Facebook a jamais ou rarement fait des bonnes applications en début. Ça s'améliore, mais au début, c'était ça ramait. Et quand on installait une application Facebook, ça nous grugeait la batterie. Imaginez complètement une interface Facebook encore plus grosse qu'une application. C'est quoi, la batterie va durer 2 heures, 3 heures?
Moi, je crois que c'est... Bon, peut-être, hein, effectivement. Il y a peut-être encore des choses à travailler. J'imagine qu'ils travaillent d'arrache-pied pour la finaliser quelques jours jusqu'au moment du lancement. Une chose qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que moi, je trouve que l'interface est quand même assez belle. Elle est très visuelle et elle est pas mal foutue. Moi, qui suis vraiment pas client du truc, je me dis, quand même, l'interface, elle est sympathique. C'est un beau moyen d'explorer son flux Facebook.
Magnifique, en effet, ouais.
Très Windows 8.
Ouais, un petit peu. Une chose que je voulais dire pour finir et qui va également apporter de l'eau à mon moulin dans l'analyse des chiffres, Benoît, c'est les quelques mots avec lesquels Mark Zuckerberg a conclu sa présentation. Et il a fait une sorte de vision statement, de déclaration de sa vision du monde connecté, de l'avenir, même d'aujourd'hui et de l'avenir. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Même si on le sait déjà, l'entendre dit comme ça, c'est un petit peu, ça change un petit peu les choses. Il a dit, imaginez le monde de l'informatique dans lequel on vit aujourd'hui et celui dans lequel on va vivre demain. De plus en plus de gens dans nos sociétés et dans les pays qui sont un petit peu moins riches et les pays en voie de développement, énormément de gens ne conçoivent l'informatique que par leur mobile. C'est-à-dire que il n'est pas du tout inconcevable que d'ici 5, 10, 15 ans, le concept d'ordinateur ne corresponde plus à une sorte de boîte avec un clavier et un écran connecté comme c'est le cas pour nous, mais corresponde simplement à un mobile. Un ordinateur, pour la majorité du monde, a priori, ça sera un mobile. Ça sera plus du tout ce que nous, on imagine quand on entend le mot ordinateur. Et c'est quelque chose qui a vraiment, pour moi, une manière de présenter les choses qui a solidifié cette impression qu'on entend régulièrement sur le fait que la mobilité, c'est l'avenir. Et je me suis rendu compte à quel point c'était vrai d'une manière dont je me rendais pas forcément autant compte jusque-là. C'est vrai que le mobile va être l'ordinateur pour la majorité des gens. Donc, je sais pas, moi ça m'a marqué. Peut-être que ça vous me dites, ah bah oui, il enfonce des portes ouvertes, mais.
Non, il a de la peine à voir le futur. Je fais un peu le contraire là, mais je pense pas que le mobile tel qu'on le connaît aujourd'hui sera là dans 15 ans. On parle énormément. On en parlait, je crois, la dernière fois qu'on était avec toi des projets comme Google Glasses. À mon avis, ça va encore se déplacer vers d'autres supports qui seront peut-être pas Glasses, mais qui seront en tout cas pas les mobiles qu'on a actuellement. Ouais. Donc, sera mobile, on est d'accord. Mais pas.
Oui, disons que le truc qui était marquant dans la manière dont il présentait les choses, c'est que les ordinateurs tels que nous on les envisage et tels qu'on les connaît depuis 20 ans, ne seraient a priori plus ce à quoi on pense quand on dit ordinateur. Bon, ça sera peut-être autre chose, mais ces ordinateurs-là, c'est pas qu'ils vont disparaître, mais ça sera plus l'ordinateur tel qu'on, quand on dit ordinateur, c'est pas forcément à ça qu'on va penser.
Oui, tout bon. À fait. Et puis, rappelez-vous, il y a 5-6 ans, quand on parlait de tablettes, c'était futuriste, c'était ésotérique, des téléphones intelligents, c'était on n'y croyait pas encore. Puis maintenant, ça fait partie du quotidien. On a tous 2, 3, 4, 5 tablettes pour moi, puis la vie.
Mais
c'est même plus que ça.
C'est le fait que le monde, si on prend le monde dans son ensemble, le monde n'a pas accès à l'informatique. Le monde va avoir accès à l'informatique par ses appareils mobiles. Et pas par autre chose. Ça va être leur premier accès à l'informatique.
Oui, tout à fait.
Ouais. Bon, bref, moi ça m'avait marqué. Vous pouvez aussi nous dire dans les commentaires si ça vous aura marqué, chers auditeurs. On continue avec Google Reader. Donc Google a annoncé qu'il serait fermé à la fin juin, ce qui a provoqué une sorte de vague de cris, de complaintes, de désespoir sur Internet. Pour ceux qui ne le savent pas, Google Reader est un lecteur de flux RSS sur le web. C'est un service qui est très très utilisé par certains, mais dont la base d'utilisateurs n'est a priori pas suffisante pour Google pour continuer le service. C'est une annonce qui a été faite il y a peut-être 2 semaines déjà, et a priori je ne pensais pas du tout en parler. Mais y a beaucoup de gens qui ont été qui m'ont demandé d'en parler et qui m'ont dit qu'ils voulaient savoir ce que j'en pensais et qui étaient désespérés eux aussi. Alors moi, pour ceux qui ne le savent pas, je vis complètement dans l'écosystème Google. Je le dis régulièrement, mais j'aime tellement les appareils Apple que parfois certains oublient que je suis un Googler convaincu. J'utilise Gmail, les Google Docs et Reader, mais sincèrement des dizaines de fois au quotidien. Je suis sur Reader, c'est comme ça que j'ai toutes mes news, etc., etc. Enfin, je suis l'un des très très gros utilisateurs de Google Reader. Et pourtant, je ne suis pas du tout paniqué par cette annonce. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient de quoi l'avenir allait être fait. Moi, je suis pas paniqué pour plusieurs raisons. Je ne panique pas d'une part, et je ne suis pas fou de rage contre Google comme l'ont été certains. Je ne panique pas parce que je suis certain qu'il va y avoir des services de remplacement. C'est une brèche dans laquelle vont s'engouffrer pas mal d'autres services. Il y en a déjà quelques-uns qui ont commencé. Et il y a une base de clientèle à récupérer. C'est simplement que la quantité de gens qui est intéressée n'est pas suffisante pour Google. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante pour une autre société. Et d'autre part, je ne suis pas furieux contre Google parce que, je dirais, c'est la vie, ma bonne dame. c'est comme ça. Il y a parfois, Google doit faire ce qui est le mieux pour Google. Ils ont décidé que ça s'arrêterait. Ma vie ne s'arrête pas. Si Gmail s'arrête un jour, je serai super triste, mais j'irai vers un autre service de mail. Enfin. Je suis sûr qu'il y aura des remplaçants. Et voilà, ça va pas être la fin du monde. Est-ce que vous êtes des utilisateurs convaincus de Gmail? Est-ce que ça vous, pardon, de Reader? Est-ce que ça vous a choqué et attristé?
Ouais, pas trop. Alors...
Mathieu, ouais, commençons par Mathieu.
Vas-y.
Bon, ben, oui, je suis très, très Google. J'étais très, très Google. Et puis, je veux remercier Google de mettre fin à Reader parce que ça m'a permis de réaliser quelque chose. C'était que j'étais trop chez Google, que j'étais trop dans l'écosystème. En écoutant This Week in Tech, ou en tout cas Tom Merritt, lui aussi...
Tech News Today, oui.
Tech News Today, ouais, c'est ça. Qui disait que, ben, il s'interroge sur son utilisation des produits Google, sur son utilisation du cloud en général. Et puis, j'ai à peu près la même réflexion. J'étais trop là-dedans et je me rends compte que, ben, je suis pas propriétaire de rien. Si la compagnie, et elle a tous les droits de le faire, décide de fermer un de ses services, ben il va falloir que je trouve autre chose. Et comme je le faisais dans le temps, ben tout devrait être en probablement local ou en espèce de cloud partagé sur d'autres systèmes. Fait que ça a été mon premier choc, c'est que j'étais vraiment trop dans Google et puis ça m'a
tu
fait réaliser ça.
Tu comptais trop sur Google, quoi.
Ouais, tout à fait.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que tu vas arrêter d'utiliser Gmail aussi et ce genre de choses?
Ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté des noms de domaine à moi, et puis présentement, ben, j'utilise Google Apps, les services de Google pour rediriger tous mes courriels dans Gmail. Mais quand ça va partir ou quand ça va fermer, si un jour ça ferme, j'aurai tout le loisir de rediriger mes courriels vers un autre service sans avertir tous les gens de mon carnet d'adresse que je change d'adresse de courriel. Alors ça, pour ça, j'ai fait attention de pas être trop dans les produits de Gmail.
Moi, je suis foutu, hein, si Gmail s'arrête.
Ouais. Mais cela dit, l'autre chose qui est bonne, c'est que ça a forcé une certaine innovation. Bon, ça force certains joueurs qu'on n'aurait pas pensé de peut-être offrir un service intéressant. Puis là, je mentionne un qu'on a aimé, qu'on a pu vu pendant un bout de temps et qui revient, Dig. Dig a fait une espèce de sondage suite à la fin de Google Reader pour essayer de récupérer cette base de fans qu'il avait avant et qui avait été pris en partie par Google Reader. Moi, ce que j'étais vraiment surpris, là, c'est qu'ils ont fait une espèce de pétition, ça s'est enflammé sur Twitter, ça s'est enflammé un peu partout. Signer la pétition pour que Google remette Reader, ainsi de suite. D'abord, ils ont des raisons de le faire et c'est pas forcément le fait qu'il y ait peu de monde qui utilise ça, c'est peut-être d'autres raisons qu'on ne connaît pas, peut-être au niveau légal. Et puis les gens qui ont signé la pétition, rendez-vous compte, il y a présentement 150 000 personnes qui auraient signé la pétition. C'est peu ou c'est pratiquement nul pour Google. Fait que ça va pas les forcer.
Pour Google, oui, mais pour quelqu'un d'autre, comme je le disais, ça peut être intéressant.
Oh, oui, tout à fait. Ben c'est pour ça, d'après moi, que Dig a vu le bon coup de refaire peut-être un service.
Ouais, il y a Dig et Feedly qui se sont jetés sur l'occasion. Toi, Benoît, tu es furieux, tu t'en fous, comment tu le vois?
Alors non, je l'ai mal vécu au début parce que comme toi, effectivement, je suis un grand utilisateur.
T'as eu des journées noires, tu regardais la pluie tomber par la fenêtre, etc.
Oui, ça s'est arrêté assez vite parce que j'étais sur change.org en train de vouloir signer la pétition et là j'ai réalisé. Je me suis dit, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ça va pas. Alors j'ai éteint le truc, je me suis dit, ok. Et puis après je suis arrivé un petit peu comme toi à me dire, voilà, bon c'est gratuit. On a appris par après aussi que plus personne chez Google voulait bosser sur Reader parce que il y avait plus de product manager, il y avait plus d'ingénieurs dessus à plein temps.
Oui, il y avait eu une histoire marrante. Il y a un ou deux mois, Reader a eu un bug. Et ils ont cherché quelqu'un pour le corriger et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient personne pour corriger ce bug et ils se disaient mais qui travaille sur ce truc en fait? C'est peut-être à ce moment-là qu'ils ont décidé de le fermer.
Oui, je pense. Et bon, ceci dit, là on parle de Reader, tous ceux qui ont un compte Feedburner, préparez la transition hein, parce que Feedburner...
C'est possible aussi, oui.
Les feeds sont morts.
Mais justement... Pardon, t'as pas fini Benoît.
Non, je voulais juste dire qu'effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il faut trouver des alternatives et il y en a tout plein. Par contre, Feedly et tous ces autres trucs, je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Toi, je me suis dit, voilà, ça m'a énervé, ça a changé ma façon de faire et je me suis dit, mais au final, c'est vrai, il y a d'autres façons d'aller chercher l'information aujourd'hui qui est plus basée sur le social et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train d'essayer de m'habituer à le faire comme ça et je dois dire que j'y arrive bien. Et que c'est peut-être une bénédiction, en fait, la fin de ce Reader.
C'est vrai que beaucoup de gens ont dit, et moi dans l'eau, beaucoup de gens ont dit, à l'époque où Google Reader a été lancé, les flux RSS, on s'abonnait aux flux RSS de différents blogs et de choses comme ça, et c'était très certainement le moyen principal d'obtenir, de découvrir les nouvelles informations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'outils, les réseaux sociaux au premier d'entre eux, qui permettent de faire ce genre de choses. Donc, le besoin de Google Reader n'est pas forcément aussi présent qu'il ne l'était à l'époque. Et il y a notamment Flipboard, je l'avais noté dans les notes de l'émission, Flipboard est un excellent moyen, et il y a Flipboard 2.0 qui a amené une nouvelle fonctionnalité dont on parlait dans le podcast Upload il y a une ou deux semaines, qui a amené une nouvelle fonctionnalité qui est pour n'importe qui de créer son propre magazine. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des magazines qui vont être créés pour les sujets qui vous intéressent et qui vont faire de manière sociale les choses que vous faisiez avec les flux RSS jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, il y a déjà d'autres, comme je le disais, d'autres moyens sociaux d'obtenir les informations. Donc, c'est sans doute pour toutes ces raisons que je suis pas très inquiet. Ça amène aussi l'autre question qui a été posée par les commentateurs au moment de l'annonce. Beaucoup de gens disaient, et tu l'as évoqué, Mathieu, tout à l'heure, est-ce qu'il faut faire confiance aux services dans le cloud qu'on ne maîtrise pas? Et est-ce qu'il faut continuer à utiliser ces services web qui peuvent un jour disparaître et, entre guillemets, prendre toutes vos données avec eux? Alors, prendre toutes vos données, je le mets vraiment entre guillemets, parce que d'une part, Google Reader, il n'y a pas énormément de données à prendre avec nous, c'est juste la liste des flux auxquels on est abonné, parce qu'on va pas, on va pas garder tous les articles qu'on a lus dans notre reader, ça sert à rien, enfin personne ne fait ça. Et puis si c'est Gmail par exemple, on pourra récupérer les mails, on peut récupérer ces mails à n'importe quel moment, enfin. Moi, ça m'a paru être un petit peu une sorte d'hystérie non justifiée, le fait de dire « Ah mon Dieu, les services web, ils peuvent disparaître et toutes nos données partent avec ». Alors oui, il y a des services web qui peuvent disparaître, mais enfin, je sais pas, c'est comme si je me dis un jour ma voiture peut tomber en panne, donc je vais pas utiliser de voiture, tu vois. Oui, on peut réparer la voiture, mais si un service web disparaît, on peut en utiliser un autre. Enfin, voilà, cette question même me paraît un petit peu mal posée, et c'est plus du sensationnalisme que un vrai problème. Est-ce que vous me suivez là, ou vous êtes plus ouais, attaché ouais, ouais. à vos...
Ouais, je te suis, mais par contre, tu vois, on peut, tout en sachant ça ou en se réveillant sur ce fait-là, exemple, toi, ton adresse de courriel, c'est un @gmail, ce qui fait que tu vas être obligé si un jour Gmail disparaît, mais là, c'est hypothétique parce qu'on sait que ça va rester très longtemps. Oui. Mais toi, ça va t'obliger probablement avertir tout le monde dans ton carnet d'adresses. C'est pas une fin du monde, il y a personne qui saigne, la vie est belle quand même, mais c'est quelque chose qui faut prendre en considération. Je suis quand même dans l'écosystème Google, mais j'ai décidé de mettre une espèce de façade qui est un nom de domaine que j'ai acheté, qui m'appartient, qui fait que je pourrais faire le transfert plus tard. Mais non, faut pas courir non plus en panique avec des choses comme ça, mais ça permet quand même de relativiser notre utilisation du cloud. Faut s'en apercevoir que peut-être tout n'est pas bon, tout n'est pas acheté non plus.
Vous croyez pas que c'est un peu comme à l'époque des gens qui avaient des clés USB, d'un coup, voilà, ça arrive une fois sur mille que la clé casse et puis ils se rendent compte brusquement que les données sont en danger. Et c'est vrai, moi je suis d'accord, pour toutes les données cruciales, l'avoir à un seul endroit, franchement, à vos risques et périls, hein. Quelle que soit la raison. On avait parlé à l'époque des exemples où vous faites hacker votre compte, où il y a un problème avec Google qui ferme votre compte, voilà, c'est fini, oui, c'est terminé.
Sûr. Donc, c'est sûr. Pour ça, c'est vrai qu'il faut, avoir ces données un petit peu, enfin, à différents endroits pour une question de sécurité, ça c'est certain. Enfin, si on veut pas les perdre, ensuite la sécurité, si on veut qu'elle soit complètement privée, c'est encore un autre problème. Mais pour la question.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns.
Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
De l'adresse email qu'on doit changer, là encore, je dirais, bah, de temps en temps, on change de numéro de téléphone, de temps en temps, on change d'adresse, de temps en temps, on change d'adresse email, je veux dire d'adresse physique où on habite. Oui, c'est un peu pénible, il faut prévenir les gens, mais parfois ça peut être bien aussi parce que ça permet de se débarrasser du spam ou des gens qui, tu vois, que auxquels on veut plus parler, qui nous envoient quand même des mails ou bon.
Ah, j'ai pas donné mon nouveau numéro. Ah non.
Je te l'envoie par SMS bientôt. Ah salut, je dois y aller là. Bon, on va faire une petite pause sponsor et puis on continue avec les news et rumeurs. La pause sponsor, c'est pour vous parler du Fan Shop No Watch que vous connaissez évidemment. C'est l'endroit où vous pouvez acheter des goodies aux couleurs de vos podcasts préférés. Vous allez sur le site nowatch.net et vous avez un petit lien les boutiques sur la droite dans le menu du haut. Et là, vous pourrez avoir accès au Fan Shop No Watch d'une part et au workshop aussi, qui est une boutique avec laquelle vous pouvez vous fabriquer vos propres t-shirts. Donc, vous pouvez faire un t-shirt avec différents logos. Si vous voulez, comme le disait Jérôme, je vais faire un truc à ma sauce, Upload devant, le rendez-vous tech derrière et, allez, on va dire quand même Nip Tech sur les manches. Ça sera bientôt possible. Jérôme travaille dessus normalement. Donc, vous pouvez aller accéder à ces deux boutiques. Il y a des choses un petit peu différentes sur chaque boutique. Et dans les deux cas, ça nous aide à financer la boîte. Donc, on vous remercie d'aller y faire un petit tour. On continue donc avec les news et les rumeurs avec une histoire à la fois un petit peu inquiétante, mais finalement plus drôle que vraiment inquiétante. C'est l'histoire de la DCRI et de Wikipédia. Alors la DCRI, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, les gars ?
Non.
J'ai dû regarder, c'est les renseignements à quelque chose.
C'est la... Alors attendez, que je dise pas de bêtises. J'ai perdu l'endroit où c'était. Je crois que c'est la direction centrale du renseignement intérieur.
Un truc comme ça. C'est russe ou cubain, c'est pour un pays.
C'est français. Et figurez-vous que c'est la direction centrale du renseignement intérieur, c'est bien ça. Il y avait une page sur Wikipédia qui, selon eux, relevait du secret défense. Ils ont envoyé une lettre à Wikimedia France, qui est l'association qui administre Wikipédia pour la France. Et ils leur ont demandé de la retirer. Le problème, c'est que cette lettre n'était pas ni précise ni justifiée dans leurs argumentations. Ils ne disaient pas quelle partie de la page était secret défense. Ils disaient pas pourquoi ils voulaient la retirer. Bref, il n'y avait pas assez d'informations pour que Wikimedia accepte la requête, comme ils le font souvent. Hein. Ils acceptent souvent des requêtes de ce type. Évidemment, ils obéissent à la loi. Dans ce cas-là, ils ont choisi de refuser parce que la requête n'était pas justifiée. La DCRI a attrapé un éditeur de Wikipédia qui n'avait rien à voir avec cette page, qui s'appelle Rémi Mathias, ou Matisse, l'un des deux, et ils l'ont attrapé, ils l'ont amené dans leur bureau, ils lui ont dit « voilà, maintenant il faut supprimer cet article, sinon vous allez en prison ». Donc le type, évidemment, s'est exécuté. Il a mis une note sur la page en disant aux autres administrateurs de ne pas la réactiver, et il en a parlé à Wikimedia, et il est reparti de la DCRI, il en a parlé à Wikimedia. Wikimedia, sur ce, fait un article sur la chose, et là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est l'effet Streisand, c'est-à-dire du nom de Barbara Streisand, qui avait voulu faire interdire une page web, et qui, en voulant la faire interdire, y a amené beaucoup d'attention et donc en a fait une des pages les plus visitées de la période. Et ben là, ça a été la même chose. Cette page en question de Wikipédia est devenue, elle a été remise en ligne parce que évidemment la requête était complètement illégale, la requête de la DCRI. Elle a été remise en ligne et elle est devenue l'une des pages les plus visitées de Wikipédia. et l'article de l'informaticien.com précise qu'elle est devant la page de Jérôme Cahuzac. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Bon, Il y a quand même, moi, j'ai un petit secret. Alors, pour la direction des renseignements intérieurs, hein, alors, bouchez-vous les oreilles parce que c'est vraiment un canal confidentiel, okay. Mais il y a une backdoor dans Wikipédia. C'est que n'importe qui peut éditer un article. Et voilà, donc...
Chut, non. Le dis pas trop fort.
Oui, c'est vraiment... Alors, c'est un secret bien gardé. Hein, mais... Pourquoi ils l'ont pas fait, tu penses? Pourquoi est-ce qu'ils ont pas juste pris quelqu'un chez eux, enlevé le truc en disant ceci est un secret défense, ça, à mon avis, rien à faire ici, et puis ça aurait été fini,
mais
là,
le pire...
tout le monde...
Le pire, c'est que les informations en question sont disponibles, ont été basées sur une interview d'une télévision locale qui était disponible sur la toile, sur le web. Donc, enfin bon, c'est vraiment une petite bêtise de la part de la DCRI. Je pense qu'il y a quelques personnes qui se sont fait tirer les oreilles chez eux.
Mais c'est vrai. Alors, j'ai une question plus sérieuse. La question sérieuse, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un hoax? Est-ce que c'est possible que ce soit une plaisanterie ou est-ce que c'est vraiment vérifié?
J'ai pas l'impression que ça soit une plaisanterie, hein. Ça a l'air d'être. Enfin, pour que Wikipédia fasse un article, on n'était plus le 1er avril.
Ah,
pour que Wikimedia France fasse un article sur le sujet et lance le scandale, enfin le mini scandale que ça a fait. À mon avis, non, c'est sérieux.
Donc, oula. Ok, alors on comprend qu'ils comprennent rien dans le fond au système d'internet et au système de Wikipédia.
Ouais. Ben il y en a un, comme je disais, qui a dû se faire tirer les oreilles.
Et ce qui est très drôle, c'est que sur la première page de Wikipédia, si j'y suis présentement, et à la première page dans la catégorie "Le saviez-vous", il nous explique quel est l'effet Streisand avec cette histoire-là. Alors dans le fond, c'est tout bénef pour Wikipédia.
Oui, non, ben c'est peut-être pour éduquer nos camarades des organismes qui pourraient vouloir copier ce genre. Mais le pire, c'est que quand il y a des requêtes qui sont qui ont une justification légale, ils le font chez Wikimedia. Ils sont pas, c'est pas des hackers et c'est pas des Anonymous, quoi. C'est des gens qui font ce que tu vois, qui obéissent à la loi. Donc bref. Bon, autre information qui n'a rien à voir du tout, c'est Windows Blue. Est-ce que vous savez ce que c'est que Windows Blue?
Oui, et j'ai hâte de l'avoir.
Ah, alors vas-y, bah explique-nous de quoi il s'agit.
Bah en fait, c'est un upgrade, une mise à jour de l'interface Metro, maintenant appelée Modern UI. Ça va être plusieurs correctifs, améliorations. C'est une suite logique de ce que Microsoft fait. Ils ont sorti une version très belle, très bonne, et il y a des petits correctifs à apporter, des choses à revoir, des noms, des choses à changer. Exemple, Windows RT, c'était peut-être pas la meilleure des stratégies de faire deux versions, une Windows 8 puis une Windows RT, en ayant deux espèces de processeurs qui arrivent à loader ces systèmes-là. C'est simplement des mises à jour là, standards qui vont arriver. Peut-être un petit peu plus vite qu'à la normale qu'on est habitué chez Microsoft, mais j'ai très hâte de les avoir, soit dit en passant.
Alors, a priori, ça devrait arriver cet été. Et effectivement, il y a des améliorations d'interface du type plus de taille de tuiles sur l'écran d'accueil, ce genre de choses, des améliorations différentes. Ça devrait arriver cet été et ça fera partie d'un cycle annuel désormais de mise à jour de Windows. Alors là, c'est Windows Blue qui s'appellera sans doute Windows 8.1. Et bon, ça sera pas le nom commercial, hein, le nom commercial elle restera Windows 8, mais c'est la référence. Et il y aura peut-être, je sais pas, Windows Pink, Windows Green, Windows Red après.
Ouais, il y a eu le gag de Gmail Blue pour ceux qui ont fait les 1er avril. C'était évidemment un petit clin d'œil à cette nouvelle version de Windows. Moi, je dois dire que des gens comme Mathieu et tout ça, ça fait depuis 2007 que j'utilise pas Windows professionnellement ou même personnellement. Et je suis vraiment tenté pour mon prochain système d'exploitation à retourner sur Windows. Donc je dois dire que là, j'entends vraiment trop de bien pour pas l'avoir d'une façon ou d'une autre.
Ben moi, je reste convaincu que c'est un très bon OS. Je pense qu'il faut encore qu'il prenne de la bouteille. Je dirais vers fin 2013, on sera bon. Mais je reste toujours séduit. Il a quand même eu des ventes un petit peu décevantes, que ce soit Windows 8 sur PC ou Windows Phone 8. Ils restent quand même un peu décevants. Mais bon, moi, je pense que d'ici fin 2013, ça sera des OS que, mi-fin 2013, que je pourrais vraiment, vraiment conseiller. On verra. Non,
totalement convaincu pour ma part. Oui. Très, très, très bonne OS.
Bon, et puis juste encore un truc quand même pour dire, moi, la raison qui me pousse, mais elle a rien de rationnel, hein, c'est que le dernier système de Windows que j'ai vraiment aimé, c'est 3.1. Oh. Là, on est à 8.1, je me dis, c'est bon, là.
Il y a quelque chose, tu vois, tu prends au marqueur le 3.1, tu rajoutes juste deux petits arcs de cercle et ça fait 8.1. Donc oui, c'est un signe. Des rumeurs Apple, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. J'en parle pas souvent, je pense que vous aurez remarqué, camarades auditeurs. J'essaye de me limiter aux rumeurs vraiment insistantes ou aux rumeurs qui ont un petit morceau de possible vérité. Donc là, on est dans un mélange entre les deux. Pour la partie vraiment insistante, c'est la fameuse iRadio qui serait un service de streaming d'Apple, un service de radio ou de streaming d'Apple qui serait en passe d'être annoncé d'ici possiblement même un mois ou peut-être plus, mais il pourrait y avoir un event en mai. Ou peut-être même fin avril. Et l'autre rumeur, c'est l'ITV, qui, comme je le dis dans le prochain upload qui va sortir, à force de l'annoncer tous les 6 mois, ça va bien finir par être vrai à un moment, une télévision Apple. Il y a la montre Apple aussi, qui a des rumeurs insistantes depuis quelques mois. Mais la chose la plus bizarre et la plus étrange que j'ai entendue, c'est le iRing. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'iRing?
C'est un jouet sexuel, c'est quoi?
ça pourrait, peut-être, non, c'est pas encore ça.
Il a pas fallu te tendre la perche beaucoup, Mathieu. Hein.
Non.
C'est une possible, enfin, selon certaines rumeurs qui me paraissent un petit peu fantasques, un moyen de contrôler la télévision Apple serait avec une bague qui permettrait de faire des mouvements pour contrôler la télévision Apple. Moi, ça me paraît pas très crédible quand même.
Oula, c'est Harry Potter et collection, c'est
voilà,
ça?
Ouais,
exact.
Oui. Bon, bref, c'est vraiment pour la mentionner, pour la blague. On va pas s'apesantir dessus. On va plutôt passer sur Offshore Leaks, qui est une sorte de montagne de documents sur les comptes que le monde entier utilise pour faire de l'évasion fiscale. Et il semblerait qu'il y ait déjà, enfin, c'est une collection de documents qui a été récupérée par Anonymous, dont on parlait tout à l'heure, et qui a été envoyée à tout un tas d'organismes journalistiques, ça s'appelle des journaux, hein, même, donc des organes de presse du monde entier, pour explorer, donc pour décoder toutes ces infos qui sont un petit peu difficiles à, dans lesquelles il est difficile de s'y retrouver, mais il semblerait qu'il y ait au moins 130 noms français. Et donc, à la suite de l'affaire Cahuzac, évidemment, ça fait un petit peu de bruit. Et comme il y a un angle tech sur le sujet, je voulais juste le mentionner, on risque d'avoir des noms qui vont sortir. D'ailleurs, il y en a déjà quelques-uns qui sont sortis de ce Offshore Leaks. Donc, une fois de plus, Anonymous et Wikileaks au service de la transparence jusqu'au boutiste. En l'occurrence, je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est plutôt une bonne chose.
Alors, en tant que citoyen suisse, je m'insurge contre ce genre de procédé qui nuit à... Bon, voilà.
D'accord, le message est bien passé. Autre info, 42, l'école de Xavier Niel. Alors, Xavier Niel, patron de Free, tout le monde le connaît, a annoncé la semaine dernière qu'il ouvrait une école pour former des ingénieurs informaticiens parce qu'il, lui, comme beaucoup d'autres dans la scène de la technologie française, se plaint qu'on n'a pas assez d'informaticiens formés comme il faut. Et donc, il s'est allié à Nicolas Sadirac, que les ingénieurs connaissent bien, puisque c'est le patron de l'EPITA, qui est une école tech, EPITA, Epitech, tout ça, qui ont été créés déjà à l'époque où moi, j'étais à l'université, ça existait déjà. Donc, c'est un vieux de la vieille de ce type de boutique. Et donc, ils se sont associés pour créer une école dans laquelle Xavier Niel investit 50 millions d'euros. Et les candidatures, enfin, on peut entrer dans cette école totalement gratuitement. Ils disent simplement qu'ils ont besoin d'ingénieurs. Et donc, Xavier Niel finance la chose. C'est une école super top, bien foutue, où il y a des trucs super modernes et tout. C'est la description technique qui était sur le communiqué de presse. Et donc, n'importe qui peut présenter sa candidature pour être admis. Et il y a, je crois, un millier de personnes admises chaque année. Vous qui suivez l'écosystème des startups et du monde de l'innovation informatique, est-ce que ça vous parle, ce manque d'ingénieurs? Est-ce que vous le ressentez, même vous?
Bon, alors vas-y Benoît, ouais. t'as beaucoup de choses à dire là-dessus.
Oui, on pourrait en parler longtemps, hein, c'est vrai. Alors, on en a parlé aussi la semaine passée à la fin de l'épisode de Nip Tech avec Roxane Barza, qui beaucoup de monde dans le monde des startups en France connaissent, qui avait un point de vue très, très intelligent là-dessus, en disant c'est vrai que ça ouvre quand même la porte à toute une série de personnes qui ont un petit peu de peine avec le parcours scolaire traditionnel et qui entrent comme ça dans une filière assez chaude. Mon point de vue était un peu plus mesuré pour plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il y a deux naïvetés. La première naïveté, c'est de se dire les besoins d'aujourd'hui sont les besoins de demain. Coder, c'est de plus en plus facile. Coder un site web, aujourd'hui, c'est pas comme coder un site web il y a 15 ans. Donc, le focus de...
Il y a 15 ans, moi, j'y arrivais. Donc, c'était vraiment pas compliqué hein, à l'époque.
Ouais, tu vois. Mais c'est ça, le truc, c'est que il me semble que cette école, elle fait beaucoup, beaucoup de code et puis elle oublie un petit peu ce qu'il y a autour. C'était un petit peu mon souci avec ça. Et de se dire, est-ce que c'est des gens qu'on prépare finalement, quand il y aura moins besoin de ces compétences, à être capable de se renouveler? Alors oui, dans l'informatique, on doit le faire tout le temps. Mais moi, je pense qu'il manque des ponts vers d'autres sciences, comme la biologie, comme enfin toutes les choses, le hardware, qui font que qui sont les domaines d'innovation, on va dire, actuellement, et qui seront donc les pourvoyeurs d'emplois demain. Donc, à mon avis, il y a une certaine... il y a un peu du mercantilisme, là, de la part de Xavier Niel, qui pense très bien à ses besoins, mais je suis pas sûr qu'il pense énormément aux besoins des gens qu'il va former dans 10 ans ou dans 20 ans. Ça, c'est mon point de vue, si je
te trouve un peu dur, quand même, ouais. Je te trouve un peu dur parce que à la limite, on a besoin d'ingénieurs informatiques. Enfin, comment proposes-tu de les former à ce moment? Tu veux dire ne pas uniquement se concentrer sur l'informatique et l'ingénierie pure et dure, mais faire quelque chose qui soit un peu ouvert au. C'est vrai que tu le disais dans Nip Tech, tu parlais de ce mantra d'Apple, de l'intersection entre la technologie et les arts les arts finalement.
Mm-hmm. Exactement. Et toi, si je m'abuse, tu as un passé de codeur aussi. C'est ce que tu as appris.
Oui, l'une de mes formations est effectivement d'ingénieur. Enfin, pas ingénieur, mais d'être de programmeur, d'analyste programmeur.
Voilà. Et je pense que tu conviendras qu'il y a quand même une richesse à avoir plusieurs angles. Et à mon avis, un des rôles de l'école, alors là, je prends un peu mon ton républicain, je veux bien, mais un des rôles de l'école, c'est aussi d'amener à quelque chose de plus vaste. Alors, je dis pas de lire Montaigne, je m'en fous de tout ça, mais je parle d'autres choses dans l'innovation. Et là, vraiment, je parle, c'est pour le start-up innovation. Non, ce n'est pas une bonne chose. Ça va faire des très bons chefs de projet pour des banques et assurances et autres. Aucun problème. Sûrement qu'ils ont du travail en sortant, mais innovation et start-up, j'y crois beaucoup moins.
Oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment ça va former des ingénieurs informaticiens purs et durs. C'est un petit peu ce que fait déjà l'EPITA et l'EPITECH. Hein. Je sais pas dans quel état ils sont aujourd'hui, mais c'était déjà les soirées de l'EPITA, je peux vous assurer qu'il y avait des t-shirts, des t-shirts de geek et beaucoup de sueur sous les bras. Hein. C'était pas les trucs les plus glamour de l'histoire, mais c'était un petit peu des foufous les gars. Mais bon, ça va rappeler des souvenirs à certains auditeurs, je pense. Mais c'est ceux dont ils ont besoin. Xavier Niel non plus. Pourtant, je l'adore pas en ce moment. Hein. On est un petit peu en froid tous les deux. Mais il a pas dit qu'il voulait révolutionner le monde. Tu vois, lui il a dit on a besoin d'ingénieurs informaticiens et on n'a pas d'ingénieurs correctement formés en France. Et nous, on en a besoin. Donc voilà, on va les former. Donc peut-être que c'est pas la réponse idéale à l'innovation, mais c'est la réponse à ce dont il a besoin, lui, c'est-à-dire des codeurs qui savent coder, quoi.
Mais écoutez oui, et, votre et, ministre, Fleur Pellerin, qui dit « France, 5e puissance mondiale, 16e au niveau de l'innovation, c'est là que viendront les emplois ». Et ça, j'aimerais le rappeler, à mon avis, il y a de l'appât du gain dedans. Et de nouveau, bravo, hein, il le fait sur ses fonds, il le fait pour des gens qui en ont besoin. Donc, je suis pas là pour cracher dans la soupe.
Excuse-moi, je t'interromps, Benoît. Ils sont pas obligés de n'avoir que le nez dans le code du jour au matin, les gars. Enfin, il y a une vingtaine d'années, c'était peut-être un petit peu le type de profil qu'avaient les gens, mais aujourd'hui on sait bien que les geeks, enfin la geekerie entre guillemets, que j'associe un petit peu à l'amour de la tech, touche à tout. On a des gens quand même, des profils beaucoup plus ouverts aujourd'hui que ça n'était le cas à l'époque, et les gens qui vont rentrer dans ces écoles vont peut-être avoir des profils très carrés et cartésiens de par leur formation académique, mais ça ne les empêche pas par ailleurs d'apprécier que ce soit Montaigne ou les mangas ou la littérature ou l'histoire, ou tu vois, enfin il peut y avoir
mais je crois qu'ils ont été assez clairs, hein, dans cette école ils disent que ça sera 15 heures de code par jour pendant en tout cas,
oui, non, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que les gens qui vont y être formés ne définissent leur personnalité et leur personne que par leur école. Ils peuvent aussi avoir des passions à côté.
Non, c'est vrai, mais j'aimerais juste peut-être pour les gens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce que je dis c'est une énorme bêtise, allez regarder ce que fait le MIT et l'EPFL, qui sont deux des écoles d'ingénieurs qui produisent le plus de produits innovants et d'ingénieurs de haut niveau. Et vous verrez le nombre d'outils, le nombre de matières auxquelles ils touchent. Le MIT en particulier est connu pour organiser des hackathons géants sur des week-ends où ils ont des bâtiments entiers avec toutes sortes de choses comme ça qui sont prises d'assaut par toutes sortes de corps de métier. Et c'est ça pour moi qui est intéressant. Alors de nouveau, c'est très bien, mais il faut pas en faire plus que ce que c'est.
Ouais, je comprends. Non, en même temps, j'ai défendu un petit peu le beefsteak de 42, mais je comprends ce que tu veux dire aussi. Et je suis d'une certaine manière assez d'accord. Mathieu, on t'a coupé de manière extrêmement impolie. Tu voulais répondre.
C'est totalement passionnant quand Ben parle de ces choses-là. C'est des envolées qui méritent toute sa place. Non, moi, en fait, c'est juste une page sponsor. Chez nous, on manque totalement de développeurs. Alors, si vous voulez envoyer vos CV au Québec, venez envoyer. On a besoin, nous, de développeurs qui viennent de 42, qui viennent de n'importe où. Venez travailler, on manque de monde.
Et en plus, la belle province est, semble-t-il, particulièrement clémente. Donc... C'est peut-être une option pour ceux d'entre vous qui veulent s'expatrier. Andy Rubin, vous savez qui c'est Andy Rubin, chers auditeurs? C'est le papa d'Android. Eh bien, figurez-vous qu'il quitte Android. Alors, on a dit beaucoup de choses. Enfin, on a posé beaucoup de questions. Est-ce que ça veut dire que Android ne va pas bien? Est-ce que machin? Moi, je pense simplement que ça fait quoi, 8 ans qu'il est derrière le projet. À un moment, il a le droit de vouloir faire autre chose. Mais bon, c'est quand même un événement dans le monde de la mobilité.
Ouais. Ben, en fait, il a été placé sur un autre projet beaucoup plus important selon les rumeurs, et on peut laisser croire que c'est peut-être Google Glass ou c'est peut-être Google TV ou peut-être des choses qui vont être plus porteuses dans l'avenir.
Yahoo rachète Sumly. Est-ce que vous savez ce que c'est que Sumly, vous deux?
Oui, tout à fait.
Alors tu peux nous expliquer peut-être, Mathieu?
Oui, en fait, Sumly, c'est une application qui est sur iOS. Il y avait comme projet de le faire sur Android, mais pour l'instant, elle est que sur iOS. C'est une application très visuelle qui agrège les données, c'est-à-dire qui fait des espèces de condensés de nouvelles très visuelles avec des espèces l'espèce de flat design de Microsoft, des tuiles, où vous cliquez exemple sur technologie et puis là il y a un condensé de nouvelles et encore là vous cliquez sur exemple Apple et puis là, il y a toutes les nouvelles d'Apple qui s'éclatent. C'est une application dont ce qui est important de retenir, qui a été développé par un jeune d'à peu près 17 ans, maintenant ça a été vendu.
Je crois qu'il avait 15 ans à l'époque.
Ouais. C'est ça, tout à fait. Et ça a été racheté par Yahoo pour, on entend parler de 25 à 30 millions de dollars le rachat de cette petite start-up. Et soit dit en passant, il n'y a pas juste Nick Aloisio, il y a deux autres de ses comparses qui viennent chez Yahoo dans ce rachat.
Ouais. Et donc, enfin, c'est ça qui était un petit peu, comment dire, qui a fait particulièrement beaucoup de bruit. C'était le fait que Nick Dalloiseau, je ne sais pas comment on lit son nom, ça doit être ça, l'a développé quand il avait 15 ans. Et donc, bon, pour la société Sumly, il y a 30 millions de dollars dans la banque. Lui, c'est le genre de personne, sans doute, dont on entendra encore parler à l'avenir. Et ouais, il était très impressionnant, ce petit gars, parce que il vendait son beefsteak et il a réussi non seulement à créer l'application, mais en plus à la développer, à aller chercher les investisseurs. Enfin, c'est vraiment un type impressionnant. Pardon, Benoît?
Oui, alors absolument. Moi, c'est ça. Ce qui m'impressionne chez lui, c'est ses qualités de leadership. Parce que quand on regarde les gens qui ont investi, hein, alors c'est people à fond. Ashton Kutcher, Yoko Ono, Stephen Fry, c'est tous des gens. Mark Pincus, alors c'est le patron de Zynga. Matt Mullenweg, le gars de WordPress. Et bon, voilà. Il a levé deux levées de fonds, une fois à 300 000 dollars et une fois à 1,5 million. Donc lui-même, c'est pas qu'il est multimillionnaire maintenant. Faut compter qu'il avait peut-être encore, 25% de la société, donc il est bien riche. Mais plus que l'argent qu'il a fait, effectivement, c'est vraiment cette capacité à tirer du monde comme ça. J'aimerais en savoir plus, parce que à 15-16 ans, je sais pas.
Ouais. Et puis, vous savez ce que j'ai aimé dans cette nouvelle-là, c'est que ça a donné un vent de fraîcheur chez Yahoo, qui en avait bien besoin. Dans tous les articles qu'on a vus, là, on voyait le visage de Nick un peu partout dans les gros titres, accompagné de Yahoo. Je trouvais que ça donnait une belle image. Maritza Meyer est en train de faire le ménage, puis pour des bonnes raisons, je trouve.
C'est vrai. Ça va, Benoît? Tu t'es cassé la gueule ou?
J'étais tellement motivé par ce jeune homme qui nous montre la voie que oui, j'en ai jeté mon micro. Mais ça va, je suis de retour.
D'accord. Justement, Marissa Meyer qui change l'image de Yahoo, il semblerait qu'ils veulent soit racheter, soit prendre une énorme participation dans Dailymotion, sans doute parce que la publicité se vend beaucoup mieux en vidéo et qu'ils n'ont pas assez de vidéos et de contenu sur leur portail vidéo. Et donc, on a entendu des rumeurs sur soit un rachat complet, mais finalement non, ça a été démenti, une partie de rachat de Dailymotion. Et Orange, qui est, on le sait, propriétaire de Dailymotion aujourd'hui, serait en train de se tourner les pouces en attendant que les dissensions internes, visiblement entre Marissa Meyer et un autre des executives de Yahoo, qui débattent du prix qu'ils seraient prêts à mettre pour prendre cette participation dans Dailymotion. Donc Orange attend, et il serait possible que finalement ils aillent dans une autre direction. Mais c'est évidemment quelque chose qui est symboliquement fort, puisque Yahoo et Google étaient les grands concurrents à l'époque de la guerre entre deux, et Google avait acheté YouTube à un moment très stratégique, et en ont fait ce qu'on sait. Donc si Yahoo rachetait ou prenait une grande participation dans Dailymotion, symboliquement ça aurait une assez grande portée, et bien sûr financièrement aussi. Donc c'est une news qui méritait d'être mentionnée. On en aura la suite sans doute dans les semaines et les mois à venir.
Mais j'ai juste une question, Patrick, si je me souviens bien, donc Dailymotion a été racheté, ou le reste, les 51% qui restaient par Orange il y a quelques mois. Donc c'était vraiment juste une opération financière, ou qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Je ne comprends pas bien l'intérêt de racheter un jour et vendre le lendemain, à moins qu'on spécule, mais je n'ai pas l'impression qu'Orange cherche à gagner quelques millions comme ça.
Alors, on n'a pas tous les détails exactement. Il semblerait qu'Orange veuille garder la majorité de la société. C'est sûr que c'est un petit peu étrange qu'ils aient racheté il y a quelques mois seulement le reste de la société pour ensuite la revendre. Peut-être qu'ils ont fait une opération financière finalement. Mais je t'avoue que je sais pas, bon, je connais pas les motivations d'Orange sur le coup. Peut-être qu'on en apprendra un petit peu plus. Peut-être qu'ils voulaient racheter Dailymotion. Et puis ensuite, avec le poids qu'ils ont, eux, forger une alliance avec un autre portail du type de Yahoo, par exemple, parce qu'il est certain que si Yahoo investit dans Dailymotion, la portée de Dailymotion devient beaucoup plus grande, et ça fait grossir le pot en général pour Orange aussi. Donc c'était peut-être leur but. Les CNIL européennes, les organismes chargés de la protection des données privées en Europe, se seraient alliés ensemble pour demander des comptes à Google suite au fait que Google n'ait pas tenu ses promesses par rapport aux conventions sur l'utilisation des données privées. Tout ça aurait à voir avec la réunion de toutes leurs conditions d'utilisation d'il y a quelques mois. Moi, je vous avoue que je suis pas certain de comprendre exactement ce que veulent les commissions européennes. J'ai lu plusieurs articles et à aucun moment je n'ai vu ce que demandaient vraiment les CNIL.
Tu veux que je te le dise ?
Eh ben vas-y s'il te plaît.
Eh bien c'est bien simple, c'est le retour de Google Reader. Et une fois que ça sera fait, voilà, c'est bon.
D'accord. Il y avait des gros utilisateurs à la CNIL et ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça... D'accord. Tout est clair. Merci, Benoît. On a aussi beaucoup entendu parler des bitcoins. Alors, les bitcoins, on vous en avait parlé il y a un moment déjà, à l'époque où ils commençaient à peine à voir le jour. Bon, peut-être un petit peu plus tard, mais quand ils ont commencé à faire du bruit, c'est cette monnaie virtuelle qui a vraiment le vent en poupe sur la toile. Je vais pas re-rentrer dans les détails de la monnaie virtuelle en question, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut acheter et vendre des bitcoins qui sont générés par des ordinateurs. Il y a tout un système très compliqué qui fait que c'est difficilement falsifiable. Et on a vu énormément d'articles sur la montée en flèche de la valeur des bitcoins qui ont vraiment pris une énorme valeur ces quelques derniers mois, sans doute dû à la crise, au fait que, en raison des problèmes de l'Union européenne avec la Grèce et Chypre notamment, les gens ont peur de garder leurs euros, tout simplement. Donc c'est peut-être en train de devenir une valeur refuge. En même temps, il y a régulièrement des hacks, non pas de la monnaie elle-même, mais des services qui vous proposent d'héberger ou d'échanger vos bitcoins, parce qu'il faut bien qu'on puisse les vendre et les acheter, ces petites bestioles, et c'est pas forcément facile de trouver quelqu'un qui accepte les bitcoins pour le payer. Et donc la monnaie fait beaucoup de bruit et a des fluctuations assez importantes, mais dans l'ensemble, elle est pour le moment, depuis quelques mois, en progression constante. Est-ce que vous faites confiance à ces bitcoins, ou est-ce que pour vous c'est une sorte de grosse arnaque? On sait d'ailleurs que le créateur de bitcoin est une sorte de personnage un petit peu mythique japonais, très renfermé, dont on n'entend pas trop parler, celui qui a créé la technologie. Vous seriez prêt à investir dans des bitcoins, ou pour vous c'est une mauvaise idée?
Alors là, je pense encore une fois que la Suisse va s'insurger contre cette monnaie virtuelle. Alors on laisse la parole à la Suisse.
Ouais, non. Alors, je vais vous donner une métaphore. J'ai habité longtemps en Irlande. En Irlande, il y a quelques années, on disait, comme dans beaucoup de pays, acheter des maisons, elles se payent toutes seules, ça peut pas descendre, la pierre, ça fait que monter. Donc, t'achètes aujourd'hui et demain, tu vends et tu peux te racheter 3 maisons. Voilà. On voit où en est l'Irlande maintenant. Ce qui se passe avec les bitcoins en ce moment, c'est de la spéculation pure et dure. Les gens qui rentrent dedans le font en connaissance de cause, et le jour où ils gagnent, tant mieux pour eux, mais le jour où certains perdront tout, parce que ça va arriver, eh bien, j'aurai pas de larmes pour eux. Donc, s'il y a des gens qui pensent investir là-dedans, faites-le à vos risques et périls. C'est un pari. C'est juste de savoir quand ça va se casser la gueule. Alors après, ça peut se stabiliser. Mais là, clairement, regardez les charts. Si ça, c'est pas une bulle, moi, je sais pas qu'est-ce que c'est une bulle.
Ouais, c'est ça. Ce qui est emmerdant là, dans ces choses-là, surtout dans Bitcoin, c'est que, et le marché spéculatif en général, c'est qu'il n'y a aucune création de richesse. Il y a rien qui est bon pour la collectivité dans ces choses-là. Puis là, c'est mon cerveau gauche qui parle, ou en tout cas le côté gauche. On se comprend. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec ça. Une monnaie qui valait 20 $ en février, qui est rendue à 135, qui a frôlé le 150, en quelques semaines et des mois, je comprends rien. Puis, comme dit Benoît, c'est investissez, mais à vos risques et périls.
OK. Bon, eh ben, écoutez, si vous faites des bêtises avec vos sous, au moins, vous pourrez pas dire que vous avez pas été prévenu. On va conclure avec la dernière petite histoire. On pourrait parler de Google qui abandonne WebKit et qui rejoint par Opera pour créer son propre moteur de rendu du web qui s'appelle Blink. On pourrait parler de la 4G qui arrive en France en force et de Orange et SFR qui commencent et Xavier Niel qui l'a encore dit, ben nous on annoncera quand on sera prêt, etc., etc. Mais j'ai choisi un autre sujet pour conclure l'émission, une évolution de Flutter qui est un système assez intéressant dont l'évolution est encore plus intéressante. Alors Flutter, ça s'écrit F-L-A-T-T-R, c'est un système qui a été imaginé par des Suédois, encore eux, qui avait à voir avec des trucs de piraterie avant mais plus maintenant. C'est un système où il vous propose d'attribuer une certaine somme chaque mois. Et ensuite, quand vous cliquez sur des boutons flatteurs sur des sites ou ce genre de choses, eh bien, ça les comptabilise et ça va distribuer l'argent que vous avez attribué chaque mois à tous les gens dont vous aurez cliqué, sur lesquels vous aurez cliqué sur le bouton flatteur. Donc, s'il y a des gens qui ont des sites web avec des boutons flatteurs, eh ben, vous pouvez cliquer dessus. Alors, c'était une bonne idée, mais il fallait que les gens aient adopté ce système flatteur pour que ça marche. Eh ben là, ils ont fait une évolution qui est vraiment maligne. C'est-à-dire que n'importe qui crée son compte flatteur peut aussi y associer ses comptes sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai mon compte flatteur. J'y ai associé mon compte Twitter, mon compte Facebook, etc., etc. Et désormais, tous les likes et les retweets et ce genre de choses qui sont ou les likes sur Instagram par exemple, c'est le cas aussi, qui sont effectués par des gens sur mon compte. Si ces gens-là ont un compte Flutter, eh ben je vais être. C'est comme si en fait tous les boutons like devenaient des boutons Flutter. Ça va compter dans le décompte qu'ils font à la fin du mois. Donc c'est un système très malin à mon sens parce que ils s'affranchissent du fait de devoir créer l'adoption de leur bouton Flutter et simplement en cliquant sur like et en retweetant et en faisant ce genre de choses. C'est comme si on avait dit on aime bien cette personne, donc on veut lui attribuer une partie de notre somme mensuelle. Donc moi, j'ai mis un petit peu d'argent sur Flutter, et maintenant, si je fais ce genre de choses, si je clique et je retweet et tout ça, ça distribue mon argent. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il faut que la personne en question, donc si je fais un like sur le compte de quelqu'un, il faut que cette personne ait un compte Flutter aussi. Donc, il y a toujours une petite barrière à l'entrée, à l'utilisation. Mais c'est quand même beaucoup plus simple. Est-ce que vous avez compris mon explication et...
Ouais, c'est génial, Flutter. Et toi, on finit souvent Niptech avec une partie inspiration, et ça, je trouve génial. Ça, vraiment, ça me plaît. Mais imagine ça maintenant. Et là, c'est mon petit tip pour Flutter. Chaque fois que tu likes quelqu'un, mettons qu'il y a deux, trois personnes qui likent, Flutter t'envoie un petit mail en disant « Saviez-vous qu'avec Flutter, vous auriez déjà pu faire 3 euros ?»
Bien sûr.
T'imagines la force du truc au bout d'un moment.
Bien sûr, c'est l'idée, hein. Je pense qu'ils vont.
C'est formidable.
Oui, oui, oui. Mais tu sais que moi, bon, j'avais déjà un compte Flutter, mais j'ai lu la chose, puis je me disais bon, ok, peu importe. Et puis j'ai vu ensuite, j'ai reçu justement un mail en me disant, hey, il y a une personne qui a aimé un truc. Bon, c'était la personne qui avait un compte Flutter, machin. Et je me suis dit, oh, bah, ça vaut le coup. Moi, je vais le faire aussi. Donc voilà, j'encourage les gens.
Ils t'ont contacté directement avant que tu ailles le compte Flutter. Ils t'ont dit à quelqu'un.
Non, j'avais déjà mon compte Flutter en fait. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont. Moi je l'avais ouvert il y a très longtemps mon compte Flutter. C'est une idée qui me plaît depuis longtemps. Ouais. Mais bon, voilà, c'était une idée que je voulais encourager, que je trouve très intelligente. Et si vous avez déjà dans votre vie fait un like ou un retweet d'un truc que j'ai écrit, eh ben ouvrez votre compte Flutter parce que si vous le faites à nouveau, bah voilà, moi je veux bien des sous quoi. Ok, on va conclure donc l'émission en vous disant à tous, chers amis, chers camarades, chers auditeurs, que nous avons été très heureux de vous retrouver cette fois encore pour le Rendez-vous Tech et que vous pouvez, si vous voulez, en apprendre un petit peu plus sur nous et sur les animateurs qui animent cette émission. Vous pouvez vous rendre sur le site du Rendez-vous Tech, sur nowatch.net, et vous pourrez trouver l'article de cet épisode, et là vous pourrez trouver les liens vers les réseaux sociaux des animateurs qui ont animé cet épisode. Vous pourrez aussi trouver les commentaires qui ont forcément été sublimes sur cet épisode, et vous pouvez vous aussi commenter vous-même. On sera forcément heureux de vous lire. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur iTunes. Comme vous le savez, c'est toujours le catalogue le plus simple pour que les gens nous découvrent. Donc si vous pensez que l'émission vaut la peine d'être découverte, vous pouvez aller sur iTunes, aller sur la page du Rendez-vous Tech et laisser une note et ou un commentaire. On a aujourd'hui plus de 1000 notes et plus de 672 avis. Je vais en lire deux pour vous donner un petit peu envie d'aller mettre des avis vous aussi. Approxime nous a dit le 5 avril, la tech comme je l'aime avec 5 étoiles. Patrick, tu parles tech comme je l'adore. Continue. Merci à toi, Approxime. Et je les lis en direct. Hein, donc s'il y a des choses pas bien, je serai bien attrapé. Amazing nous dit Geek Grunge, toujours le 5 avril. Ce podcast est tellement bien que j'ai daigné installer iTunes rien que pour mettre 5 étoiles. Oh là là. Alors, oula, Geek Grunge, oula. Merci.
Faut aimer le Rendez-vous Tech.
Ah, mais carrément. Mais je suis très flatté. Les barres de rire en perspective dans les transports en commun vous donneront envie de voyager plus longtemps rien que pour écouter vos podcasts. Merci beaucoup. Et ça, c'est le truc qui me fait le plus plaisir, parce que moi, je suis évidemment un gros consommateur de podcasts aussi. Et c'est un petit peu ce qui m'a donné envie de me lancer et ce qui me donne toujours envie de continuer. C'est que quand j'écoute des émissions, ça me fait bien marrer et j'ai souvent l'air d'un imbécile dans les transports en commun à rigoler comme un mec un petit peu bizarre et les gens me regardent un petit peu bizarrement. Donc, je suis heureux de voir qu'on arrive à faire cet effet également aux auditeurs. Donc merci à vous, et merci à vous de nous laisser des commentaires sur iTunes et ailleurs d'ailleurs, hein. Il n'y a pas qu'iTunes dans la vie forcément. Bah messieurs, merci d'avoir été là, merci d'avoir ensoleillé nos oreilles avec vos accents chantants. J'espère que vous avez passé un beau moment. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où ils peuvent vous retrouver s'ils veulent vous suivre d'un peu plus près?
Allez Mathieu.
Allez, Mathieu.
Alors, le mardi soir, n'oubliez pas d'aller sur live.niptech.com où tous les mardis soirs, à partir de 21h, nous sévissons avec tous nos amis de Niptech. Vous pouvez me rejoindre, moi, préférablement sur Twitter à @profduweb. Et je laisse la parole au patron pour finir.
Ouais, et @BCURDY, B-C-U-R-D-Y, mais comme l'a si bien dit Patrick, toutes les informations sont aussi sur No Watch, alors il suffit d'y aller et vous trouvez tout ce qu'il faut.
J'ai une question, Mathieu. Prof du web, t'es vraiment prof ou moi j'ai jamais eu l'explication en fait?
C'est une manière très gonflante de dire que je m'y connais un petit peu en web, et c'est juste uniquement parce que pro du web était pris, j'ai rajouté un F, et de fil en aiguille, c'est devenu prof du web, comme quoi des fois des erreurs, ça fait des at-names sur Twitter.
Pas mal, ok, bon ben le mystère est résolu. Eh bien chers auditeurs, je vous remercie, je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission dans 2 semaines de ça. À très vite, ciao ciao.
Salut.
Ciao.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.